des mots pour le dire. Dominique Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Les émotions sont en première ligne dans notre relation avec notre environnement et particulièrement avec les autres. Il semble en effet qu'avant de jouer la concurrence, l'homme a joué la coopération. Décidément, notre cerveau n'a pas fini de nous surprendre. Et si nous étions beaucoup plus sensibles qu'on ne le pense face aux émotions de nos contemporains? Les émotions, c'est notre nouvelle série que nous vous proposons avec le docteur Dominique Desmichel, une série d'émissions qui s'appuie sur l'excellente revue Archipel, revue de l'association Jalmav jusqu'à la mort, accompagner la vie.
Pour effectuer un mouvement, le corps reçoit des ordres du cerveau. Les ordres sont envoyés par des micro-circuits qu'on appelle neurones moteurs. À chaque action, des neurones moteurs spécifiques pour allonger le bras, pour poser la main sur la table ou pour attraper délicatement une cacahuète entre deux doigts. Nos cousins les singes disposent du même type de neurones moteurs. Il y a quelques années, des chercheurs italiens ont fait une découverte stupéfiante. Lorsque le singe observe quelqu'un qui saisit une cacahuète devant lui, ses neurones moteurs entrent en action comme s'il voulait agir lui-même et faire la même action que celui qui l'observe. Ces neurones moteurs sont des neurones miroirs, à travers eux. Le singe, en regardant quelqu'un agir, se sent agir lui-même en se voyant à travers l'autre, comme dans un miroir. Ces neurones existent probablement aussi chez l'homme. Il pourrait nous permettre de rentrer dans la peau de l'autre, d'essayer d'agir à sa place, de parler quand il parle pour mieux déchiffrer ses actions, tenter de deviner ses intentions, se mettre à la place de l'autre, se regarder en lui comme dans un miroir. C'est peut-être une bonne manière de le comprendre. Peut-être.
Dans ce petit extrait édité par l'INSERM, nous comprenons un peu mieux l'interaction entre les êtres vivants en nous mettant à la place de l'autre grâce à ces fameux neurones miroirs. Docteur Desmichel, une découverte de façon très très récente dont on saisit mal encore toutes les implications.
Oui, très récente, les premiers travaux datent quand même de 1990, puis ensuite surtout de 2000, un peu aux États-Unis. Bon, moi, je suis un petit peu dubitatif là-dessus. Rappelons que ces neurones dits miroirs sont situés dans ce qu'on appelle les aires prémotrices, c'est-à-dire avant les neurones vraiment moteurs, c'est-à-dire ce qui prépare l'action, hein, et puis dans les aires pariétales, donc sur les côtés là du cortex. En fait, ils permettent en quelque sorte de se voir agir à la place de l'autre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'emballement médiatique, c'est comme si on avait enfin trouvé le lieu de tous nos comportements sociaux qui serait basé sur l'imitation. L'imitation, il faut se rappeler que cette question de l'imitation, c'était le propos de votre introduction, hein, d'ailleurs, me semble, c'est vraiment important de dire ça, c'est essentiellement comme ça qu'on apprend, hein. Voilà, on a tous appris quand on était enfant, parce qu'on a vu des gens marcher, on a appris à marcher, etc. Donc voilà, tout serait balayé, concentré au fond dans cette zone-là, que ce soit le langage, la compréhension d'autrui, puis après toutes les grandes valeurs morales, que ce serait l'altruisme, la générosité, l'empathie, l'orientation sexuelle, au fond, un petit peu tout ça.
Il semble que ces neurones miroirs fonctionnent aussi pour les émotions, c'est-à-dire qu'il suffit que j'imagine quelqu'un triste pour que dans mon cerveau s'allume l'endroit qui me rendrait triste, quoi.
Voilà, mais ce qui est intéressant de se dire, ça c'est relativement normal, ce qui est intéressant dedans, c'est que ça, cet apprentissage... ça serait les mêmes neurones que ceux qui vont entraîner une action. Sauf qu'il n'y a pas d'action, mais dans l'aire prémotrice, c'est-à-dire juste avant, ce qui prépare l'action, on sait que, vous voyez, par exemple, quand je décide d'écarter un petit peu mes mains pour accompagner mon propos, eh bien, avant que je le fasse, c'était déjà un petit peu décidé. Ça, c'est l'aire prémotrice. Prémotrice, ça veut dire avant le moteur. Et dans cette aire prémotrice, au fond, tout se ferait là. Voilà. Bon, je crois qu'il ne faut pas en attendre énormément de choses. Peut-être juste quand même se dire que nous sommes capables, probablement en effet, de comprendre une action parce qu'on en a une représentation à l'intérieur de nous-mêmes et que cette représentation presque motrice est activée dans notre cerveau. Et qu'à partir de cet engrammage au fond de cette action, on décide de ce qu'on va faire plus tard. Alors, je crois qu'on le sait un peu tous, plus ou moins intuitivement. Voilà, c'est probablement extrêmement compliqué, d'autant plus que, on l'a vu déjà plusieurs fois, le fonctionnement du cerveau est un fonctionnement extrêmement, extrêmement global. C'est-à-dire, en gros, il y a des aires qui s'allument, comme vous dites, voilà, parce qu'on le voit ça avec les caméras à positrons, hein, c'est-à-dire positons, qui permettent de voir là où ça s'allume en fonction de... Il y a un peu plus d'oxygène qui est consommé, en fait, voilà, c'est comme ça qu'on voit que ça s'allume, on mesure tout ça. Voilà, mais qu'en gros, plein d'air s'allume en même temps.
Alors, néanmoins, le visage de l'autre, reflète pour la plupart des gens leurs émotions, malgré eux. Et c'est la première chose que je vois, c'est le regard de l'autre qui va me toucher. Et ça, on le reçoit, on en fait quoi ?
Alors, d'abord, je trouve que votre exemple est intéressant parce que la capacité à interpréter le regard de l'autre ou l'émotion du visage de l'autre dépend de plein de facteurs. Il dépend d'abord de la capacité expressive du visage de l'autre, hein. Il y a des gens qui... dont on dit, oh ben lui, de toute façon, on lit tout sur son visage. Hein? Voilà, on connaît des gens comme ça. Puis, oh ben, de toute façon, lui, il est toujours absolument impassible. Quoi qu'il arrive, il n'aura pas son sourcil gauche ou droit qui va se soulever.
Et ça peut se travailler un petit peu. Hein? Dans les films d'agents secrets, les agents secrets travaillent ça. Hein?
C'est-à-dire, ils apprennent à rien montrer du tout, c'est
oui,
ça,
c'est ça.
Ouais. Oui, tout à fait, bien évidemment. On a vu, je crois d'ailleurs, dans une précédente émission, que par rapport à la peur, bien évidemment, qui se traduit par énormément de choses, je pense que certains agents secrets, pour reprendre votre exemple, surentraînés, sont bien plus doués que vous et moi, en tout cas que moi, dans certaines situations où je pense qu'ils gardent parfaitement leur sang-froid, quand moi, je peux avoir déjà le cœur qui bat à 150 et puis tout le reste. L'autre élément, c'est aussi nos apprentissages. Et ces apprentissages, en particulier dans notre enfance, nous ont fait apprendre certaines choses. Et je fais une litote, bien évidemment, en disant ça. Ce qui fait que si, par exemple, on a pu être dans une grande proximité avec nos éducateurs au sens large, nos parents au premier plan, sur cette capacité à lire quelque chose sur leur visage, puisque vous prenez l'exemple du visage, alors sûrement on va pouvoir gagner quelque chose et être plus performant plus tard. L'autre élément qui compte, c'est que dans notre fonction de perception du monde, souvent on en privilégie certaines. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui vont appréhender le monde essentiellement à partir de leurs réflexions, de leurs pensées. D'autres, ils vont l'appréhender essentiellement en fonction de leurs sensations. C'est-à-dire, ils vont sentir d'emblée, et ils vont être capables de dire à l'autre « Ah, je sens là, par exemple, que tu t'es retenu un tout petit peu, ou là, non mais je sens que t'es pas présent, voilà. » Il y a des gens qui sentent rien du tout chez l'autre, hein, voilà. Il y en a d'autres qui vont être extrêmement intuitifs, c'est-à-dire ils sont capables d'avoir cette espèce de communication d'inconscient à inconscient, et presque avant que l'autre ait une sensation, ils peuvent dire « si, si, là », ils disent « je sente », mais ce n'est pas du domaine d'une sensorialité, c'est du domaine d'une intuition. « Non mais je sens que tu n'es pas, t'es pas, ouais, t'es pas là ».
C'est très étonnant ça d'ailleurs.
Ouais. Oui, tout à fait.
Quand on en a fait l'expérience, c'est très étonnant.
Exactement, ouais. Exactement. Voilà, alors tout ça, pour reprendre aussi un mot que vous avez dit tout à l'heure ou lors de la précédente émission, ça s'entraîne et on peut l'apprendre. Hein. On voit par exemple que dans certaines écoles de management, par exemple, on peut apprendre aux gens qui ont des têtes très bien faites, très très pleines, parce qu'ils ont fait une école d'ingénieurs. On leur dit oui, mais pour manager une équipe, savoir résoudre des équations extrêmement compliquées ou manier des algorithmes, c'est pas très très utile. Par contre, savoir sentir les choses, c'est utile. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Donc les gens qui ont une pensée dominante, on va leur apprendre à utiliser leurs émotions, à utiliser leurs sensations pour percevoir des choses. Voilà. L'intuition, par exemple, vous voyez, peut se développer chez l'enfant lorsque sa capacité à percevoir une information chez ses parents est très peu accessible. Hein. Les enfants, par exemple, qui peuvent avoir des parents très distants, très absents, voire très froids, ils peuvent développer cette intuition. C'est-à-dire ils sont capables d'aller se brancher sur l'inconscient des parents pour acquérir une information et en tirer un apprentissage.
Oui, on est encore dans le domaine de la survie presque.
On est encore, on est tout à fait dans le domaine de la survie, en tout cas de l'adaptation.
De l'adaptation.
Quand il nous manque quelque chose, on va chercher ailleurs.
Alors, est-ce que cela a à voir avec l'altruisme, par exemple, ou la solidarité qu'on va développer par rapport aux autres? C'est-à-dire cette capacité à lire les émotions et à les partager, en tout cas.
Je dirais, non, peut-être pas directement. Il y a bien évidemment un enracinement organique, très vraisemblablement, un enracinement organique de nos émotions et en particulier de nos valeurs morales.
C'était Lisa Leblanc, le cerveau ramolli. Et docteur Dominique Desmichel, en parlant de cerveau ramolli, vous aviez une petite histoire sur les marshmallows à nous raconter.
Oui, c'est ça. Alors, c'est pas le cerveau là, mais c'est. Alors, c'est intéressant parce que vous allez voir, on voit l'articulation entre apprentissage, neuromédiateur et puis perspective dans la vie. Cette expérience, elle a été faite par. Walter Michel dans les années 1970-72. Voilà, le test est simple. On présente à un enfant un bonbon avec une consigne. Si tu ne le manges pas pendant 15 minutes, si tu résistes au fond à l'envie de le manger tout de suite, alors tu en auras deux au bout de 15 jours. Et donc, on a étudié au fond, chez les différents enfants, la durée de la résistance de l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude a montré que ceux qui ont pu résister s'en sortent mieux dans la vie. C'est quand même assez... Voilà, alors vous imaginez que ça a été une étude qui a été sur de très très longues années, sur 20 ou 30 ans, puisqu'il y a des travaux qui ont été faits et publiés dans les années... après les années 2000, donc vous voyez, plus de 30 ans après. On s'aperçoit au fond que ceux qui ont pu résister, ils ont de meilleurs résultats scolaires. Le plus souvent, ils consomment moins de drogues, moins de médicaments. Ils sont souvent plus minces, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas de problème d'obésité. Ils ont souvent plus de diplômes et souvent ils sont plus heureux dans la vie. Cette étude, elle a été faite de nombreuses fois, et l'idée, si on reprend un tout petit peu de neurophysiologie, c'est que l'hippocampe, ou en tout cas le circuit limbique, le système limbique de ces enfants, qui choisissent une récompense différée, qu'il est plus actif. C'est-à-dire, au fond, ces enfants-là ont, avec leur système neuronal, la capacité de se dire qu'ils peuvent inscrire leur identité dans un temps beaucoup plus long. Et que ça, ça aide bien.
Et c'est pas parce que c'est des enfants qu'ils le font pas de manière tout à fait réfléchie, on est d'accord. Hein. Je veux dire, ça ne mesure pas quelque chose d'un peu d'instinctif, un comportement instinctif. C'est un comportement réfléchi de la part de l'enfant.
C'est un comportement qui est un comportement d'évaluation. C'est-à-dire, comment au fond, finalement, je fais dans l'instant. On est quand même dans l'instant, puisqu'il y a quelques minutes. Voilà, donc, est-ce que je choisis d'avoir le plaisir immédiat ou est-ce que je choisis le plaisir différé? Je rappelle d'ailleurs que, par exemple, par rapport à la formation, aux études, dans la vie, on n'a pas le choix. Tous ceux qui choisissent de prendre le bonbon extrêmement rapidement, par exemple qui disent à leurs parents « moi j'en ai marre, comme ça je veux gagner ma vie, donc dès que j'ai passé, je sais pas trop quoi, mon brevet, mon CAP ou mon bac, je vais travailler », ils consomment le bonbon tout de suite, et on peut les comprendre. Mais le plus souvent, ils vont se priver d'avoir des diplômes et ils vont avoir plus de difficultés. Donc vous voyez, dans la vie, c'est ça aussi. Donc on pourrait rappeler à tous ces jeunes adolescents, pas du tout pour leur faire la morale, mais pour leur dire, dans la vie, par rapport au plaisir immédiat et au plaisir différé, on a quand même intérêt à utiliser le plaisir différé. Voilà, c'est un fait statistique, c'est un fait psychologique, ça n'est pas un fait moral. Voilà, hein, donc...
Je me sens visé là en plus, alors bon. Docteur Dominique Desmichel, il nous reste une dizaine de minutes pour conclure cette série de 8 émissions sur les émotions. Est-ce qu'on pourrait revenir, alors, si on devait faire un bilan sur ces émotions, sur, en quelques phrases, d'où viennent-elles, comment agissent-elles sur notre environnement, sur nous-mêmes, sur notre environnement, et comment peut-on tenter, si c'est possible, de les maîtriser, ou en tout cas, de vivre avec, de manière en bonne entente.
Ben, je crois qu'il faut rappeler la double composante des émotions, c'est-à-dire le fait qu'elle est un système d'alarme et qu'elle est un système de valeurs. Le système d'alarme, il est indispensable. Heureusement, on ne peut pas couper le système limbique, qui sera toujours extrêmement présent. Deuxièmement, il est un système de valeurs, c'est-à-dire il vient inscrire dans nos choix de vie la sommation, au fond, des expériences et des choix qu'on a faits, avec cet exemple de l'enfant qui, par exemple, très tôt, avec des mécanismes qu'on ne connaît pas très bien ou qu'on ne connaît même probablement pas du tout, oui, qui a la capacité de différer ou non son plaisir.
Oui, il faut rappeler quand même qu'en effet, le cerveau, les découvertes, c'est sont quotidiennes hein, sur le fonctionnement du cerveau. On est loin de tout connaître. Hein.
On sait quand même que pour bien se servir de notre cerveau, il faut ne pas être dans la routine, il faut s'ouvrir à l'interrogation, à l'intérieur de soi-même et à l'extérieur de soi-même. Il faut s'ouvrir au changement. Il faut lutter contre l'infobésité, c'est-à-dire une quantité énorme d'informations qu'on a de plus en plus. Il faut apprendre à sélectionner et mettre une hiérarchie de valeurs, hein, parce que ça a une action sur notre identité. Il faut cultiver l'altérité. Hein. J'ai lu, par exemple, hier soir un article disant que les gens qui étaient bilingues avaient certaines capacités de traitement de l'information qui était beaucoup plus importante que ceux qui étaient monolingues, hein, et les multilingues encore plus. Voilà, alors quand je dis langue, c'était, ici c'était des langues comme l'anglais, l'allemand, etc. Mais on peut parler plein d'autres langues, on peut parler le français, mais on peut parler aussi la musique, on peut parler aussi le rapport à la nature, hein, il y a d'autres types de langues. Mais que vraiment ce multilangage, hein, c'est-à-dire cette capacité à... Alors moi, j'appelle ça à marcher sur plusieurs pieds, hein, de ne pas marcher sur un seul pied, une seule identité, c'est probablement très important. À ce propos-là, puisque vous aviez posé la question de l'altérité, c'est vrai que le cerveau, on l'a vu un tout petit peu dans les neurones miroirs, le cerveau, c'est une véritable chambre d'écho de l'autre. Voilà, c'est important aussi de pratiquer une activité physique, c'est important de s'occuper des autres et de s'occuper de soi. Mais j'aurais envie vraiment de faire retour sur cette idée fondamentale qui a été développée par le professeur Damasio, c'est-à-dire, ce n'est pas « je pense, donc je suis », ce n'est pas ma pensée qui me détermine, mais ce sont mes émotions. J'éprouve, je ressens, donc je suis, c'est nos émotions qui nous gouvernent.
Alors nos émotions, nous l'avons vu, sont là pour nous permettre de survivre, en tout cas dans des temps lointains, dans notre société actuelle. On a l'impression qu'elles sont presque un handicap.
C'est-à-dire, je pense que dans l'existence, de la même manière qu'il y a notre cerveau limbique qui nous impose nos émotions, et notre cortex préfrontal qui nous apprend à réfléchir et à penser, il y a lieu de tenir les deux. C'est-à-dire, si on choisit uniquement à partir de nos émotions, il y a le risque d'une tyrannie du sentiment. Si on choisit uniquement à partir de notre raison, alors on risque d'être un peu froid et inabordable et infréquentable. Donc il y a toujours cette tension des opposés qui est très très importante, c'est-à-dire pouvoir tenir la raison, pouvoir tenir l'émotion, pouvoir tenir la pensée et tenir la passion. Je crois que c'est cette articulation entre les deux est tout à fait importante. Et puis je pense qu'on peut dire à ceux qui sont très déterminés par leur réflexion, on peut les inviter à ouvrir plus grand le champ de leurs émotions, et on peut inviter ceux qui sont le plus souvent dominés par les émotions, et ils disent que de temps en temps c'est vraiment très très lourd, on peut les aider à apprendre à tenir ces émotions. Mais tenir ces émotions, ça n'est pas les refouler, c'est les accueillir, les comprendre et essayer de négocier avec elles.
Eh bien, notre émission touche à sa fin. Alors, j'aimerais qu'on aborde vraiment pour conclure, peut-être des nouvelles pistes qui s'ouvriront dans les années à venir sur la génétique, docteur Dominique Demichel, sur entre autres l'épigénétique qui ouvre des horizons, pareil, assez surprenants.
Alors, l'épigénétique, c'est quoi ? L'épigénétique, comment on peut dire ? Dans nos chromosomes, vous savez, il y a une grande molécule qui code l'essentiel de notre fonctionnement. Cette molécule, c'est une molécule d'ADN. Dans cet ADN, il y a des petites sections qui correspondent à des gènes. Ces gènes, ils vont coder pour la fabrication d'une protéine. Cette protéine, ensuite, va avoir une action particulière. Hein ? Voilà. Pendant très longtemps, on s'est dit, tiens, dans cette molécule d'ADN, il y a des tas de fractions qui codent pour des gènes, puis il y en a des tas d'autres qui représentent une très très grande majorité de l'ADN qui servent à rien. Alors, les choses qui servent à rien dans le corps, ça court pas les rues quand même. Et puis, au bout d'un moment, est apparue cette science qui s'appelle l'épigénèse. L'épigénèse, c'est la capacité qu'a notre ADN à faire que certains gènes s'expriment ou ne s'expriment pas. Or, on s'est aperçu que si le patrimoine génétique de nos gènes, ce patrimoine-là est fixe, la modalité d'expression ou non de nos gènes, elle est par contre variable. C'est-à-dire qu'au cours de notre vie, on modifie non pas nos gènes, ça c'est juste lié au hasard au moment de la fécondation, de la méiose et des divisions chromosomiques, mais qu'on a une influence sur notre épigénèse. Donc voilà, on est en train de comprendre que la vie d'un individu va permettre de modifier non pas ses gènes, mais l'expression ou non de ses gènes dans sa descendance. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et tout à fait intéressant. L'exemple, c'est qu'on sait que les souris vont développer une réactivité au stress qui correspond à celle des mères qui les élèvent et non pas à de leur mère génitrice. Comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, elles vont développer une résistance ou une trop grande sensibilité au stress en fonction de ce qui leur a été transmis par leur mère qui les a élevées, même si ça n'a pas été leur génitrice, vous voyez ? Voilà, donc cette épigénèse est quelque chose qui est tout à fait étonnant et qui est en train de modifier notre perception de l'expression de notre patrimoine génétique.
Eh bien, docteur Dominique Demichel, nous voilà obligés de refaire cette émission peut-être dans 5 ans, si nous sommes encore dans cette radio, pour voir justement les nouvelles découvertes et puis sur le cerveau et les émotions. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi pour vos questions. Au revoir.